Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De tout temps, l'humanité s'est posé la question : qui est Jésus ? Qui est cet homme qui fait des miracles ? Cet homme que nous voyons devant nous ou dont on nous parle ? Est-ce que cet homme peut être fils de Dieu et n'être qu'un avec son Père ? Et que veut dire être un avec son Père ? Quelle est la conséquence pour nous de cette affirmation ? C'est un débat qui habitait les Juifs de l'époque de Jésus, et plus spécialement les pharisiens et les juristes, et qui aujourd'hui encore vient nous questionner, parce que notre cerveau a difficile à accepter cette double antinomie. Le Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme, et le Père et le Fils, bien que deux personnes distinctes, ne font qu'un. Lors du baptême du Christ par Jean-Baptiste, une voix venant du ciel disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Mais combien sont prêts à entendre cette parole ? Déjà dans la première lecture du prophète Baruch, il nous met en garde contre des personnes, ces personnes qu'il appelle les géants, qui se croient supérieurs et qui n'écoutent pas. Là, il y eut ces géants fameux qui vécurent dès le commencement, à la haute stature et habiles dans la guerre. Et ce n'est pas eux que Dieu a choisis. Et ils ont péri parce qu'ils n'avaient pas la vraie science. Ils ont péri à cause de leur folie. Et cela résonne étrangement quand on regarde notre monde d'aujourd'hui. Saint Paul nous redit aussi la même idée dans son épître. Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un fidèle dispensateur de la parole de vérité. Évite les discours creux et profanes. Leur parole étendra ses ravages comme la gangrène. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais accueillant envers tous, capable d'instruire sans violence. Et c'est avec douceur qu'il doit corriger les opposants. Ainsi, dans ces passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous retrouvons la parole que Dieu avait donnée à son peuple par Moïse. Schéma, écoute Israël. La véritable écoute n'est pas extérieure par l'oreille, mais intérieure. Lorsque Saint-Pierre a répondu à la question de Jésus « Et pour vous, qui suis-je ?» C'est par un cri jailli du cœur qu'il dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Ce n'est pas une réponse découlant d'une longue réflexion intellectuelle, mais d'une intuition animée par l'Esprit de Dieu. Ainsi, être brebis du Christ, ce n'est pas respecter une loi extérieure ou des préceptes éthiques et moraux, mais c'est faire un avec le Christ. C'est comme dit saint Paul dans son épître aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est une rencontre intime, une rencontre tout intérieure. Et le Christ, pour répondre à la question des Judéens, « Si tu es le Christ, le Messie, dis-le-nous ouvertement », il leur rappelle d'abord leur égarement. « Vous n'avez pas foi en moi parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Et depuis, si vous lisez le chapitre 10 de Jean, d'où est extrait cette péricope, donc depuis le début de ce chapitre 10, le Christ n'a de cesse de leur rappeler ce que signifie croire en Dieu, suivre le Christ ou faire la volonté de son Père. Et il le refait à nouveau ici, dans ce passage, en se comparant une fois encore au bon pasteur. Et il le fait en 6 affirmations, regroupées en 3 paires. La première insiste sur l'ouverture du fidèle à la parole du Christ. « Mes brebis entendent ma voix. » Il y a alors l'engagement personnel que le Christ promet. Moi, je les connais. La deuxième paire, c'est d'abord la fidélité pratique du croyant, se sachant connu et aimé. Elle marche derrière moi. Et le deuxième engagement du Christ, moi, je leur donne la vie éternelle. Et la troisième paire nous donne le caractère indestructible du salut que possède ainsi le croyant. Elles ne périront jamais. Et à le troisième engagement du Christ, personne ne les arrachera de ma main. Et il va même plus loin en rajoutant, personne ne peut rien arracher de la main de mon Père et moi, nous sommes un. Et cette dernière parole est insupportable pour les représentants de la loi, et ils veulent le lapider. Le Christ va alors tenter de leur faire comprendre de quelle unité il parle lorsqu'il dit « Mon Père et moi, nous sommes un ». Il aborde la question en rappelant ses œuvres et en les comparant aux œuvres de son Père. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez point. » Il prouve ainsi qu'il n'est pas inférieur à son Père. Bien sûr, Jésus apparaît comme un homme. Il est impossible de voir sa nature divine, car elle est métaphysique, c'est-à-dire au-delà de la physique, de la matérialité humaine. Mais il y a une ressemblance dans l'identité des œuvres. Le peuple juif avait pu bénéficier des œuvres du Père lors de la sortie d'Égypte, lors de la marche dans le désert, puis avec les rois David et Salomon. Des œuvres aussi au-delà des capacités de l'homme. Et le Christ a accompli aussi des œuvres au-delà des capacités humaines. Le Christ déclare qu'il accomplit non pas ses œuvres, mais les œuvres de son Père. Par sa nature humaine s'accomplissent ainsi les œuvres divines. Ces miracles ont tous été des œuvres du Père, car ils ont été faits en invoquant son nom. Et si le Christ était un imposteur, Dieu aurait-il répondu favorablement à ses prières? Jean a relevé des réflexions du peuple et des prêtres de l'époque qui vont d'ailleurs dans ce sens. Personne ne saurait faire de si grands miracles si Dieu n'est avec lui. Et voyant le miracle qu'il faisait, les pharisiens disaient, ou certains prêtres disaient, ne serait-ce point le Christ? D'autres disaient, quand le Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? Il y a ainsi plus qu'une communauté de volonté et d'action, plus qu'un lien d'amour inconditionnel entre le Père et le Fils, mais encore celui d'une communauté de nature, une communauté d'essence. Le terme « un » exprime la conscience de l'union, non seulement relationnelle, mais aussi naturelle avec Dieu lui-même. Et naturelle, c'est dans le sens de la nature, de l'essence. Le « nous » de l'expression « nous sommes un » établit la différence des personnes, et le « un » l'unité de nature. Pour les notables que cet homme, qu'ils voient devant eux, se fasse Dieu, est inacceptable. Toi qui es un homme, tu te fais toi-même Dieu. Ils ne peuvent pas voir, tant ils sont aveuglés par leur suffisance, que la réalité est tout autre. C'est Dieu qui s'est fait homme par amour, par abaissement, et pas le Christ vu comme homme qui par vanité se fait Dieu. C'est l'accomplissement de la même volonté d'amour pour l'humanité, pour ces brebis qui existent dans la divinité. Cette relation d'amour qui unit naturellement le Christ à son Père est l'exemple de ce qu'il veut pour nous par sa grâce. C'est la même volonté de sauver l'homme de son égarement qui anime le Père et le Fils. Nous ne sommes pas uniquement les enfants de nos parents biologiques, mais surtout et avant tout les enfants de Dieu. Si le Christ est venu parmi nous, c'est pour nous montrer le chemin vers le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Dieu nous a donné son Fils comme icône vivante de sa présence parmi nous, icône qui devient le modèle à suivre, afin que descende sur la matière de notre humanité l'Esprit, la grâce de celui qui nous donne vie et qui nous invite par amour à partager la sienne. Nous sommes aimés inconditionnellement comme filles et fils de Dieu. Ne l'oublions jamais. À lui soit louange, honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen.